Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous arrivez à l'instant sur Europe 1. Nous sommes plus que jamais à votre écoute, à votre service, car nous sommes tous concernés par l'épidémie de coronavirus. Alors on va vous montrer que si parfois, c'est vrai, il y a de l'incivisme, il y a aussi chez nous une vraie solidarité qui est en train de s'installer. Et c'est vous, vous les Français, qui en êtes aussi les acteurs. Et puis, si vous souhaitez réagir, vous le savez, hein, le standard est ouvert, le 3921, le hashtag radio ouverte également. Allez-y. N'hésitez pas, vous en emparez, vous nous posez toutes les questions que vous voulez. On va essayer au maximum de vous répondre. Vous êtes les bienvenus. À mes côtés, de loin, mais à mes côtés tout de même, Elisabeth Assayagela. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Oui, et de loin, mais toujours présente.
Exactement. Et notre avocat, l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez, est là aussi. Bonjour Roland.
Oui, bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Roland qui fait un travail formidable pour répondre à toutes vos interrogations au fur et à mesure que les questions arrivent. Alors c'est vrai qu'on dit souvent, en France, il n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées. Eh bien vous allez voir que c'est le cas pour faire face notamment à la pénurie de masques. Les entreprises ont décidé de venir à la rescousse. C'est le cas du slip français. Bonjour Guillaume Gibault.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. On connaît bien Guillaume Gibault ici dans La France Bouge parce que vous êtes un de nos coachs, Guillaume, depuis le début de cette aventure. Et là, vous avez décidé, vous aussi, finalement, d'aider à la fabrication de ces masques. Vous êtes intermédiaire, coordinateur. Vous donnez votre matière pour aider les CHU.
Exactement. On essaie d'être utile dans cette phase éminemment compliquée. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de nos ateliers avec qui on fabrique toute l'année nos produits, en général slip, maillot de bain et autres, il y en a plus d'une vingtaine, que chacun était un peu contacté dans son coin, soit par le conseiller régional, soit par l'hôpital du coin, qui leur demandait en urgence de fabriquer des masques. Et donc du coup, ils étaient tous à des niveaux d'avancement différents. Ils fabriquent, c'est pas nos ateliers à nous, mais ils fabriquent parfois avec nos matières qu'ils peuvent avoir sur l'étagère des prototypes, et c'est évidemment très encadré par la direction de l'armement qui valide des prototypes.
Parce que la DGA.
La DGA qui fait évidemment le filtre pour arriver à fabriquer des produits qui soient aux normes. Évidemment, l'idée c'est de pas fabriquer des masques qui ne servent à rien. Donc en fait, ils nous contactaient nos ateliers pour nous dire est-ce qu'on peut utiliser votre matière, et puis voilà, j'ai telle et telle question. Et on s'est dit que essayer de passer l'information entre différents ateliers qui étaient un peu confrontés dans leur coin à toutes les questions qui se posent pour arriver à effectivement fabriquer des masques de façon efficace. On s'est dit que ça pouvait être utile de les aider parce qu'il y a évidemment deux gros impératifs pour eux pour arriver à fabriquer des masques. Le premier, c'est d'arriver à assurer la sécurité des gens qui viennent travailler chez eux, puisque en fait c'est souvent des ateliers qui avaient fermé leurs portes.
Oui.
Si je parle des établissements Le Maillot,
oui, à Lille. Une vingtaine d'ateliers, je crois, en tout.
Nous, on travaille avec une vingtaine d'ateliers. Aujourd'hui, j'ai échangé avec 4 ou 5, dont aussi Saint-James, qui est aussi un de vos coachs, Luc Le Sénégal, qui sont aussi en train de regarder la question. L'idée, c'est vraiment que chacun s'assure qu'ils puissent réouvrir leurs portes à des volontaires pour venir travailler, puisque souvent ces ateliers ils avaient fermé leur usine lundi soir ou mardi soir, et là souvent contactés par les hôpitaux, ils disent est-ce qu'on peut réouvrir, si oui comment, est-ce que évidemment on doit s'assurer de la sécurité des gens qui reviennent travailler. Donc je pense que sur ce point-là on peut les aider à centraliser les bonnes idées qu'ils peuvent avoir chacun de leur côté. Et puis évidemment le deuxième gros point, c'est s'assurer qu'ils fabriquent des masques qui soient utiles, qu'ils aient les bonnes fournitures pour le faire,
qu'ils soient de vraies alternatives aux fameux masques FFP2. Alors bougez pas Guillaume. Exactement. Parce que vous parliez de Luc Le Sénécal, justement il est en ligne avec nous. Bonjour Luc.
Oui, bonjour Raphaël. Bonjour tout le monde.
Bonjour Luc.
On les aime nos coachs parce qu'ils sont toujours pleins de ressources, et vous le montrez une fois de plus, Luc, président des Tricots Saint-James, parce que vous dites vous aussi effectivement, comme le précisait Guillaume, suite à nos discussions avec les centres hospitaliers locaux, nous allons réorganiser nos ateliers de confection.
Absolument. Au fait, Guillaume a bien résumé la situation. Nous avons arrêté nos outils de production, tricotage et confection, puisqu'il fallait d'abord trouver des solutions pour mettre tout notre personnel volontaire, tous nos salariés, en situation de maximum de protection. Donc, on a fait appel hier à Isigny Sapmer, qui travaille dans l'agroalimentaire, qui, eux, avaient à disposition des masques, du gel et des gants, qu'ils ont pu nous dépanner pour nous redémarrer la fabrication de masques textiles. Mmh. Et pour se coordonner, pour pas que ça parte dans tous les sens, je pense, comme le disait Guillaume, qu'il faut s'organiser au niveau région. Donc nous, on travaille
avec la Normandie.
Le centre hospitalier, avec la Normandie, Avranches, Granville, qui eux vont essayer de redistribuer les masques qu'on va remettre en fabrication. On a commencé le prototype ce matin.
Oui.
On va sortir des premiers exemplaires cet après-midi. Donc c'est un masque lavable à partir de coton. Il y a trois couches, deux couches de tissu coton plus une couche de molleton.
Vous nous enverrez les photos. Hein.
On peut déjà admirer une photo sur Twitter, hein, sur le compte de Saint-James, et sur mon compte Twitter aussi, qu'on l'a déjà relayé.
Oui, mais quand le prototype sera officiel, vraiment, vous nous envoyez tous les détails pour qu'on puisse en faire partager au maximum. Hein.
Voilà, et on va faire fonctionner la chaîne de solidarité entre guillemets du textile pour que chaque atelier puisse confectionner ses masques et les mettre à disposition des équipes hospitalières et surtout médicales pour tout le monde, quoi. Voilà. Alors attention, hein, ce sont pas des masques, qu'on soit bien précis, ce sont pas des masques qui sont homologués pour le personnel hospitalier en contact avec les malades. C'est pour justement mettre uniquement ces masques à disposition du personnel hospitalier en contact, qu'on fabrique des masques lavables pour tout ce qui est prévention autour de, je parlais
pour les soins,
des
par
médecins,
exemple,
des infirmières, etc., pour que les masques vraiment homologués contre ce virus soient réservés uniquement au personnel
soignant qui est en contact direct des malades.
On remonte la chaîne, si vous voulez.
Vous avez raison de le préciser, Luc. Elisabeth, c'est vrai qu'il y a urgence, et on le voit, à fabriquer des masques, hein, aujourd'hui.
Mais oui, on le voit, on l'entend à chaque heure. Hein, les masques sont réservés en priorité au personnel de santé, mais le souci, c'est qu'ils en manquent cruellement de masques, des fameux FFP2, qui sont donc homologués pour lutter contre, pour se protéger du coronavirus. Des masques dans les cabinets des médecins généralistes aussi, il en manque, parce que eux aussi sont en première ligne. Hein. On dit qu'il faut d'abord aller voir le médecin traitant ou le contacter, pas aller le voir, mais le contacter en cas de premiers symptômes. Il n'y a pas assez de masques aussi parce qu'il y a eu beaucoup de vols, notamment au CHU de Montpellier, 11 400 masques chirurgicaux qui ont été volés, 1 200 masques de type FFP2. À Paris aussi, à l'hôpital Necker notamment, quelques 4000 masques ont été volés. Il y a eu des vols un peu partout en France. On a assisté à ça ces derniers jours.
On va rester ensemble et on va évidemment accueillir les auditeurs. Merci à Guillaume Gibaud du Slip français. Merci à Luc Le Sénécal pour les tricots Saint-James. Vous restez bien sûr avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Quand on fabrique des jeans, on ne se dit pas qu'on va être amené à changer de produit. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Hein, c'est ce qui se passe avec pas mal d'interlocuteurs. Vous allez le voir d'ici quelques instants. On va accueillir Thomas Hurier des Jeans 1083 et Julien Tufféry dans quelques minutes. Mais je voudrais d'abord qu'on donne la parole à un de nos auditeurs. Un de nos éditeurs qui est à Perpignan. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez une question pour notre avocat, Roland Pérez. Vous êtes infirmier dans une clinique privée, c'est bien ça?
Infirmier de bloc dans une clinique privée.
Oui.
Alors voilà ce qui se passe. Les vacances, le solde des vacances de l'année précédente doivent être prises avant le 1er mai. Donc on a tous posé notre solde de vacances pour courant avril, disons, hein. Bon, on ne peut plus prendre de vacances, c'est ce qui est tout à fait normal. À cette période, on est tout à fait d'accord de repousser nos vacances. On aimerait les prendre au-delà du 1er mai. Est-ce que c'est possible de pouvoir les prendre au-delà du 1er mai, juin, juillet, août, peu importe, quand ça sera beaucoup plus calme?
Alors, réponse de Roland Pérez, notre avocat, l'avocat d'Europe 1.
C'est une très très bonne question, parce que la loi impose effectivement de prendre normalement les congés de l'année précédente avant le mois de mai, et là la difficulté c'est que ça ne vient pas de l'employeur, c'est la loi qui le prévoit, parce que les congés qui ne sont pas pris sont théoriquement perdus. Donc a priori, je dis bien a priori, il va y avoir des dérogations qui vont être mises en place, notamment alors pour le personnel médical, puisque le personnel médical est quasiment réquisitionné aujourd'hui dans la mesure du possible dans toute la France. France. Et là, des mesures vont être prises, effectivement, pour voir reporter ces congés au-delà du 1er mai, pour ne pas les perdre, parce qu'il ne manquerait plus que non seulement le personnel soit réquisitionné et renonce à leurs vacances, mais qu'en plus, ils perdent leur droit à congé sur l'année écoulée. Donc, a priori, je vais dire, c'est une question de bon sens, parce que le décret n'a pas été pris, on ne s'est pas encore préoccupé de cette question, mais il ne saurait tarder, et à l'évidence, il va y avoir une possibilité de reporter sans difficulté pour l'employeur et pour le salarié ces fameux congés.
On a répondu à votre question, Frédéric ?
Tout à fait, tout à fait.
Bon, merci.
On croque les doigts pour ce décret, voilà.
Bon, on va attendre et évidemment, vous nous tenez au courant de votre situation. Merci Frédéric d'avoir composé le 3921. Frédéric à Perpignan en direct avec nous sur Europe 1. Alors je vous le disais, il y a énormément d'industriels, d'entrepreneurs qui sont en train de se mobiliser, d'artisans aussi, et ils seront avec nous d'ici quelques minutes. Je voudrais qu'on accueille Julien Tuféry. Bonjour Julien.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct de Florac, puisque c'est là que sont vos entrepôts, vos ateliers familiaux depuis combien ? 128 ans, c'est ça, je ne me trompe pas ?
Exactement, depuis mon arrière-grand-père. Voilà. Donc on est confiné au milieu des Cévennes, mais c'est vrai qu'il y a pire comme confinement.
Il y a pire, effectivement. Alors vous aussi, ça y est, vous vous êtes mis à fabriquer des masques au lieu de fabriquer des jeans, Julien.
Oui, bah du coup c'est vrai que ça a pris une ampleur en fait assez incroyable. Enfin, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel besoin. Donc en gros, bah c'est parti clairement d'un sentiment de bon sens et de bienveillance locale, en se disant mais comment dans ces temps un petit peu difficiles on peut essayer de se rendre utile. Et en fait, on s'est dit oui, il y a tellement de demandes autour de nous à propos de ces masques, essayons, mettons en stand-by le temps de quelques jours, mais j'ai l'impression que ces quelques jours vont durer notre fabrication de jeans pour essayer de répondre à une demande locale de fabrication de masques de première protection.
Vous en avez fabriqué combien pour l'instant ?
Alors on a dû en donner entre dimanche à aujourd'hui, on a dû en faire passer, alors hélas on n'a pas compté, mais entre pas loin de 800 je pense masques sur le bassin de vie local. Donc c'est des masques que l'on donne et que l'on donne bien évidemment, alors là on compte aussi sur la bienveillance de chacun et l'entraide pour faire en sorte que ce soit les personnes entre guillemets qui en ont le plus besoin qui viennent les chercher en premier. Alors bien évidemment on contrôle pas, on ne demande pas la carte professionnelle, c'est pas du tout notre métier, on préfère se dire que la bienveillance collective fera que c'est d'abord les soignants qui viendront les chercher. Oui, et c'est le cas je pense.
Et manifestement la Chambre de commerce et d'artisanat de Lozère vous a demandé de pousser la production pour les commerçants par exemple qui sont aussi en contact avec les gens.
Tout à fait. Alors du coup, la période est quand même, franchement Raphaël, la période est quand même très compliquée. On a l'impression d'être au milieu du brouillard. Mais ce qui est chouette dans toute période un peu compliquée, c'est qu'il y a une certaine entraide qui se met en place. Et là, c'est le cas. Forcément, le principe d'un artisan, c'est souvent la mutualisation et l'entraide entre artisans. Et là, forcément, on parle beaucoup des soignants. Et c'est vrai, on parle beaucoup d'aide à la personne. Et c'est vrai. Mais il faut penser qu'il y a des personnes, notamment liées à l'alimentaire, qui sont en contact de personnes absolument tous les jours, qui n'ont pas de protection. Et en plus, ces personnes ne sont pas du tout prioritaires. Ne serait-ce que ce matin, on a la première distribution de masques du matin a été les personnels de caisse des deux supermarchés de notre village de Florac, parce que hyper exposés et pas de protection.
Oui, c'est vrai, vous avez raison de le signaler. Elisabeth, le masque chirurgical ou la protection en tissu comme une écharpe, ça a la même efficacité ? Pas forcément ?
On l'a tous remarqué là. Il est pas rare de croiser les quelques personnes qu'on voit traverser sa fenêtre qui ont peut-être une écharpe autour du cou ou un morceau de tissu. Alors entre rien et un foulard, bon effectivement c'est pas mal le foulard, mais les médecins disent un peu tout et sont contraires, parce qu'un médecin disait que c'est bien à condition de laver quotidiennement son écharpe ou son foulard à 30 minimum. D'autres disent une écharpe on la lave jamais, toutes les 3 heures, donc autant ne rien porter. Et puis surtout il faut rester à la maison, donc comme on ne sort pas, eh bien autant rester et on ne porte rien quand on n'est pas soigné.
C'est exactement ce qu'on préconise. Pour le coup, on a bien évidemment, on n'est pas certifié médical, on a aucune accréditation, aucun label, mais c'est juste. Et d'ailleurs, on a répondu aussi à un appel de Madame la secrétaire d'État, Agnès Pruner-Runacher, qui exhortait les ateliers textiles à essayer de fabriquer le plus de masques possible. On est très très clair là-dessus. On a fait les choses bien évidemment au mieux que l'on pouvait avec les toiles les plus serrées, les toiles les plus adaptées, mais bien évidemment, ça fait partie de ces premières mesures barrières on a souvent entendu depuis des semaines éternuer dans votre coude, protégez-vous. Oui. Mais ça revient un petit peu à ça, de se dire, est-ce que ça va... Enfin, on n'a pas la prétention de se dire qu'on va arrêter l'épidémie avec nos masques, on a juste le sentiment d'entraide en disant, mais c'est sans doute mieux que rien.
Oui, et ça rassure Julien aussi.
Ouais, et on les distribue, en fait, on les distribue en double pour sans cesse aussi avoir cette espèce de roulement. Mais bien évidemment, Elisabeth le disait, c'est surtout dans un premier temps, restez chez vous. Oui. Et si vous avez à sortir, parce qu'il faut s'alimenter, il faut faire des choses de première nécessité, ben mettez ce masque. Quand vous arrivez chez vous, vous le mettez à bouillir ou vous le lavez, vous le faites sécher, et etc., etc. Ce sont des toutes petites choses, on va dire, d'entraide locale. Voilà. Oui, mais sans plus de prétention.
Oui, mais c'est très beau. Bravo, Julien, pour ce que vous faites. Je voudrais qu'on vous reste avec nous, bien sûr. Je voudrais qu'on accueille Géraud Pradal, qui est avec nous, qui est directeur commercial chez Kipley. Bonjour Géraud.
Oui, bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous aussi, vous êtes sur votre lieu de travail en ce moment parce que vous aussi, vous êtes mobilisé pour fabriquer également des masques. En théorie, vous fabriquez des vêtements de travail au départ, mais vous avez souhaité vous mobiliser également.
Exactement, je pense qu'on est tous dans la même situation. Nous, on a plusieurs activités, on fait du vêtement de travail en grande échelle et un peu de prêt-à-porter, du vêtement Made in France. Et en fait, cette activité de prêt-à-porter Made in France, ça nous a permis d'avoir le savoir-faire et de fabrication. Et on a souhaité mettre à disposition notre savoir-faire et tous les moyens dont on dispose pour aider la communauté. Alors, certes, pour le moment, on essaye d'aider à notre échelle et nos masques sont homologués. Ça, c'est important de le préciser. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça permet une première protection minime et peut-être pas entièrement suffisante. Mais
Géraud, vous les avez distribués à qui, vos masques, aujourd'hui?
Alors nous, on a distribué à l'hôpital de Flers, qui est la commune principale autour de notre atelier. Et là, on va en donner demain à l'ensemble de la gendarmerie ornaise du département et au commissariat de Flers également. Alors, on en donne aux entités publiques, en fait, qui sont proches de chez nous, pour les permettre de continuer à exercer leur mission. Parce que c'est vrai que j'ai eu écho, par exemple, que certaines gendarmeries ne pourraient peut-être plus exercer leur métier s'ils n'avaient plus de masque. Donc, ça me paraissait invraisemblable. Et c'est pour ça qu'on se doit tous de les aider à notre échelle, en fait.
On entendait tout à l'heure Guillaume Gibault, Luc Le Sénécal, et vous aussi, Julien Tuféry, et vous, Géraud, dire c'est pas homologué. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de trouver finalement des subterfuges pour arriver à faire homologuer les masques que vous êtes en train de fabriquer?
Oui, voilà. Alors du coup, nous, ce qu'on a fait, on a envoyé quelques prototypes à la DGE et la DGA pour les faire valider afin de pouvoir fabriquer en plus grande échelle nos masques et d'assurer une protection aux utilisateurs. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on en a donné quelques centaines et on a des demandes par milliers, en fait, tout simplement. Donc, on attend, entre guillemets, l'accord et la validation de la DGA pour pouvoir en diffuser plus largement et communiquer sur notre savoir-faire.
Bien sûr.
Et la possibilité d'équiper plus de personnes encore. Donc, on reste très modeste pour le moment. On attend la validation de la DGA. Et suite à ça, derrière, on va pouvoir... comme je disais, équiper plus de personnes.
Alors, vous restez en ligne avec nous. Je voudrais qu'on accueille Thomas Huriez, qui est un de nos coachs également. Décidément, ils sont mobilisés, nos coachs, aujourd'hui.
Tous, hein.
Oui, vous avez raison, Elisabeth, fondateur des Jeans 1083. Bonjour, Thomas.
Bonjour à toute l'équipe.
Comment allez-vous, Thomas?
Ça va bien. On est au taquet, là, à l'atelier.
Au taquet.
Pour livrer nos professions médicales locales.
Oui, ça y est, les premiers masques 1083 sont sortis.
Oui, ils sont sortis mardi. On a eu lundi des appels de médecins, d'infirmiers locaux qui savent qu'on fait du textile et qui ont reçu un tutoriel du CHU de Grenoble pour faire leur propre masque de secours en attendant la livraison des masques officiels. Et donc, dès mardi matin, on a pris les décisions d'arrêter de produire des jeans et de produire des masques. Et donc, mardi après-midi, on livrait nos premiers masques. Et là, depuis, on est au taquet sur la fabrication de masques pour répondre à la demande, parce qu'on a plusieurs dizaines de milliers de masques en attente localement qu'on essaye de fabriquer.
Thomas, quels sont ce sont des hôpitaux, des usines agroalimentaires, c'est qui ?
Médecins, hôpitaux, radiologues, infirmières, ambulanciers, EHPAD, commerçants. Vraiment, c'est les demandes affluent. La personne qui concentre les demandes, on a doublé le poste parce que on a vraiment beaucoup de mal à traiter toutes les demandes. On a mis en place un formulaire pour que les gens fassent la demande eux-mêmes. C'est vraiment une demande massive.
Justement, ces masques, Thomas, on parlait juste avant que vous nous rejoigniez des homologations. Vous aussi, vous avez contacté la DGA, la DGE pour voir s'il y avait moyen de faire homologuer tous ces masques.
Non, nous, on n'a pas entrepris ces démarches. On est vraiment là de manière transitoire, en bouche-trou, en attendant que les masques officiels soient livrés.
Oui.
Il y a eu urgence. On suit simplement strictement les consignes du CHU de Grenoble qui dit aux professionnels de santé comment faire et utiliser ce masque transitoire. Donc, on s'en tient là. On ne livre qu'à des professionnels de santé qui savent combien de temps ils peuvent les utiliser, qui savent comment les laver. Mm-hmm. Et c'est d'un moindre mal plutôt que de ne pas avoir de masque.
Alors, merci de votre intervention. Merci aussi à Julien Tufféry et à Géraud Pradel qui étaient avec nous. Je voudrais qu'on s'arrête aussi sur une autre initiative, Elisabeth, qu'on a trouvée. Hein, c'est les tissages Charlieu qui sont en train de créer des masques pour le CHUGA de Grenoble, c'est-à-dire le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble.
Tout à fait. Charlieu, c'est cette PME de la Loire hein, de 70 salariés qui a lancé sa production hier, mercredi. Elle produit des masques de protection en tissu lavable, là aussi pour remplacer des masques chirurgicaux utilisés lors des soins. Il ne s'agit pas des fameux FFP2, ce sont donc des masques chirurgicaux. Dès vendredi dernier, la PME a mis au point un prototype. Il est composé de 3 couches de tissu en coton bio. Il est fabriqué en 3D. Et là aussi, c'est un peu ce que disait Thomas Hurier, les commandes affluent, elles proviennent des hôpitaux, des EHPAD, des usines agroalimentaires ainsi que des pharmacies. Près de 50 000 unités devraient être fabriquées par jour au sein donc des tissages Charlieu.
Merci Elisabeth, merci à Julien Tufféry, à Florac, merci à Guillaume Gibault qui était en ligne avec nous pour le slip français tout à l'heure, Luc Le Sénécal, Géraud Pradel pour Kiplé en Normandie et Thomas Hurier, fondateur de 1083. Vous allez voir que les initiatives sont nombreuses, notamment pour fabriquer des masques, mais aussi des gels hydroalcooliques. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge.
La France bouge, la France se bouge pour vous aider, pour faire face à cette épidémie de coronavirus. Et vous le voyez, hein, chaque jour, les initiatives sont nombreuses pour essayer de répondre aux questions que vous vous posez, aux préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs le 3921 qui est à votre disposition. Et puis, sur les réseaux sociaux, le hashtag Radio Ouverte. Vous pouvez poser toutes vos questions. Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, est en ligne avec nous pour essayer de vous répondre au maximum, le plus rapidement possible. Il s'adapte à toutes les situations, notre Roland, évidemment à mes côtés pour vous éclairer, Elisabeth Assayag depuis chez elle en télétravail, et nos invités qui sont tous des gens formidables qu'on découvre ou qu'on redécouvre d'ailleurs.
Et par téléphone aussi.
Mais oui, par téléphone, bien sûr. Bonjour Olivier Joly.
Et bonjour.
Monsieur Payotte, le roi de l'espadrille. Merci d'être avec nous.
Merci.
Ça fait plaisir de vous entendre et ça fait plaisir de voir que Payotte, qui fabrique des espadrilles en temps normal, se mobilise aussi pour fabriquer à son tour des masques.
C'est ça, exactement. Ben, en fait, j'ai pas mal d'amis qui sont infirmiers qui m'ont raconté un peu l'état critique qui était dans les hôpitaux pour les aides-soignantes au niveau de la pénurie des masques. Et moi, je lui aurais dit, voilà, j'ai des toiles d'espadrilles. Si vous voulez, on peut se mobiliser, on peut essayer de planifier, de faire un patron et de trouver une solution pour, en attendant, vraiment de substitution, d'essayer de trouver un masque, qui serait pas homologué, qui n'est pas aussi aux normes, mm-hmm. mais qu'on pourrait, voilà, ça pourrait peut-être aider les patients à peut-être à leur donner le sourire ou vraiment de les sécuriser, quoi, donner un peu plus d'assurance.
Et, voilà, alors, et alors, du coup, Olivier, le premier jour, vous en avez réalisé 300 et hier, 1300, c'est ça?
C'est ça, exactement. Hier, 1300. Donc, c'est vrai qu'on a eu des appels de partout, des couturières qui se, vraiment, on a eu un soutien. Vraiment, je voyais que vraiment les gens étaient solidaires aujourd'hui, quoi. Je veux dire, vraiment, ça a été quelque chose de fantastique. Je veux dire, tout le monde nous appelait. Voilà, je suis couturière. Par contre, je peux pas me déplacer. Donc après, il y avait des ambulanciers qui nous contactaient, nous disant, nous, on peut faire le trajet. Vous nous donnez la toile, on l'amène directement chez la personne. Dès que la personne a fabriqué, on vous les ramène. Du coup, ben, il y avait les infirmiers, les ambulanciers, il y avait les aides-soignants, les aides à domicile qui venaient directement chercher les masques à notre bureau. Bon, parce qu'on a changé notre bureau en petit atelier, donc on a dû vraiment s'organiser. Donc là, voilà, petit à petit, tous les jours, ben, on fabrique. Voilà.
Elisabeth, c'est vrai que c'est un problème, hein, pour les soignants, on l'a vu, mais aussi pour d'autres professions, les dentistes par exemple, qui sont également en première ligne.
Oui, parce que les dentistes sont en première ligne, mais ne font pas partie des soignants comme on les entend aujourd'hui. Hein. Ils ne sont pas à l'hôpital, ils sont dans leur cabinet, mais eux, ils sont non seulement exposés parce qu'ils exposent aussi les patients avec les turbines, avec les instruments. Pour les masques, le Conseil de l'Ordre est en train de se battre, hein, pour en avoir, afin que les volontaires dentistes qui font les gardes d'urgence se retrouvent protégés, parce que les urgences chez les dentistes, c'est pour calmer des douleurs aiguës, et c'est donc quand on a des douleurs très fortes, très souvent, on va où ? Eh bien, on va aux urgences.
Et oui.
Aux urgences. Donc c'est pour éviter aux patients d'aller aux urgences à l'hôpital, parce que pour eux, j'ai discuté avec pas mal de dentistes, aujourd'hui ne pas intervenir, c'est encore surcharger l'hôpital, c'est surcharger les soignants, c'est-à-dire ils ne les aident pas. Et donc, si en quelque sorte, ils abandonnent leurs patients aussi. Donc il faut aussi des masques pour les dentistes.
Et on va voir que vous êtes nombreux à vous mobiliser pour les fabriquer, ces masques. Bonjour Chloé Chenel.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la fondatrice de Chanticréa. Vous avez créé votre marque en 2015. En principe, vous faites des accessoires lavables zéro déchet. Mais le 7 mars, justement, il y a un podologue qui vous a interpellé, qui vous a demandé si vous ne pouviez pas plutôt fabriquer des masques. C'est comme ça que ça a démarré.
C'est comme ça que ça a démarré, tout à fait. J'étais en exposition dans un regroupement local de producteurs. Et donc, cette podologue est venue me voir pour savoir justement si j'envisageais d'en faire, parce qu'elle se doutait qu'il allait avoir une pénurie et qu'elle travaillait au niveau des EHPAD avec des personnes âgées et qu'elle voulait se protéger elle, mais protéger aussi les personnes avec qui elle travaillait.
Et donc là, vous êtes en pleine production depuis le 7 mars ?
Et là, depuis le 7 mars, j'ai commencé à en faire un petit peu déjà pour tester justement avec tous les tutoriels qu'on peut trouver sur Internet pour pouvoir lui faire ce qu'elle me demandait. Et puis très vite, j'ai commencé à avoir des demandes de particuliers, une entreprise de Rungis aussi, un fromager.
Oui.
Je pense qu'il continue à travailler au sein de son entreprise et qui demandait une quarantaine de masques pour ses employés. Donc voilà, mais c'est aussi beaucoup de particuliers, des personnes malades. J'ai des diabétiques qui me contactent et qui ont besoin, par exemple, de faire des allers-retours à la pharmacie et qui veulent se protéger et qui n'ont pas accès aux masques classiques. Hein, qu'on trouve peut-être aujourd'hui, alors j'entends dire qu'il y a des réapprovisionnements, mais bon, peut-être pas pour tout le monde partout, il y a des secteurs prioritaires.
Évidemment, alors justement, il y a eu des réquisitions, hein, Elisabeth, de masques de l'armée, par exemple.
Oui, notamment l'armée, hein, ça s'est passé hier, hein, le ministère des armées annonçait qu'il allait livrer 5 millions de masques chirurgicaux. Il s'agit de stocks qui appartiennent à l'armée, qui vont être mis à la disposition du ministère de la Solidarité et de la Santé. Ils sont destinés en priorité aux soignants, 5 millions de masques.
Je voudrais qu'on regarde un petit peu les questions que vous vous posez, hein, parce que vous le savez, pendant une heure, on répond aussi à toutes les questions qui vous passent par la tête. Et c'est vrai qu'elles sont nombreuses, parce que finalement, on vit une situation inédite. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens pour l'instant. Roland, on a par exemple sur Twitter, avec le hashtag Radio Ouverte, CGR Grémigre qui nous dit « Travaillant dans un supermarché, un membre de ma famille vient d'être hospitalisé pour le coronavirus. Je suis donc obligée de rester à la maison pendant 15 jours. Mon employeur me dit que je ne serai pas payée. Est-ce que c'est normal ? Que faire ?
Non, non, absolument pas. C'est absolument pas normal. Dans la mesure où il a été en contact avec une personne, ce salarié a été en contact avec une personne qui, hélas, a été touchée par le Covid-19, il faut qu'il prenne immédiatement contact avec l'Agence régionale de la santé et les médecins qui sont affiliés à l'Agence régionale de la santé, qui va lui établir un arrêt médical de minimum 14 jours, qui pourrait être renouvelé jusqu'à 20 jours, et qui devrait normalement lui permettre d'être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc le salarié, effectivement, l'employeur ne procédera pas au paiement du salaire, mais la caisse primaire d'assurance maladie procédera aux indemnités, au paiement des indemnités journalières sans période de carence, puisqu'on est dans une situation prévue précisément dans ces confinements de personnes qui ont été en contact avec une personne infectée.
Merci Roland pour ces précisions. On va évidemment continuer jusqu'à 14h à prendre et vos appels au 3921 et vos questions sur le hashtag Radio Ouverte. Merci à Olivier Jalili chez Payotte et à Chloé Chenel pour ce qu'ils font en ce moment, la fabrication de masques. Vous allez voir que des entrepreneurs se mobilisent aussi pour fabriquer des gels hydroalcooliques. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Vous savez qu'en France, on n'est jamais à court d'idées et que certes, nous sommes parfois récalcitrants et difficiles à convaincre quand il s'agit d'appliquer les règles. En revanche, nous savons aussi montrer l'exemple quand il s'agit de solidarité. C'est ainsi que des grands noms du luxe ont fait le choix de transformer momentanément leur activité. Bonjour Christophe Legrand.
Bonjour madame.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes directeur des opérations de Guerlain en charge du plan de production et de distribution des gels hydroalcooliques. Et oui, parce que le groupe LVMH va fabriquer en grande quantité ces gels sur ses 3 sites de production qui, en principe, fabriquent des parfums et des cosmétiques. Vous l'avez annoncé dès dimanche, ça y est, la production a démarré.
Oui, nous avons eu l'autorisation en fin de semaine dernière de produire des gels hydroalcooliques. Donc face à l'urgence, nous sommes mobilisés une centaine de collaborateurs pendant tout le week-end et puis à compter de lundi pour d'abord proposer une formule à l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui les satisfasse et ensuite pour pouvoir démarrer la production dès lundi. Ce qui a été fait, puisque nous avons expédié les premiers produits lundi soir et nous faisons en sorte de satisfaire et de suivre leurs besoins qui sont malheureusement très croissants.
Oui, la PHP vous a dans un premier temps, je crois, demandé 12 000 litres par semaine, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Pour les 39 hôpitaux de Paris, c'est 12 000. Enfin, au départ, c'était même un petit peu moins, mais c'est devenu 12 000 litres par semaine maintenant. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons faire avec la mobilisation et le volontariat de nos collaborateurs pour honorer ce besoin. Nous en sommes à peu près à 15 000 litres, donc nous arrivons à suivre pour l'instant et nous mettons tout en œuvre pour continuer.
Oui, ça signifie que vous avez, vous, la capacité avec le groupe LVMH de fabriquer en grande quantité.
Oui, nous avons des capacités de production importantes et puis nous avons aussi des collaborateurs qui se mobilisent. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier chaleureusement.
Oui, parce qu'il y a des volontaires notamment.
Exactement. Ce sont des personnes qui se mobilisent volontairement pour cette activité au profit des hôpitaux. Donc nous faisons en sorte de monter notre capacité le plus possible. Nous, dans l'urgence absolue dans laquelle nous étions, nous avons fonctionné avec les ingrédients que nous avions et surtout les packaging que nous avions, mais nous allons mettre en place quelque chose de plus stable dès la semaine prochaine, j'espère, ou en tout cas dans les 10 prochains jours.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous envisagez ? Vous avez déjà une idée de ce que vous pourriez faire de l'effort supplémentaire que vous pourriez fournir ?
Non, nous allons faire en sorte de suivre les besoins qui sont croissants des hôpitaux de Paris parce que chaque jour ils nous font des demandes additionnelles et nous savons que ce qu'ils nous demandent aujourd'hui sera très probablement augmenté demain ou après-demain.
Vous avez précisé que vous aviez les contenants. Elisabeth Assayag, c'est vrai que c'est un des problèmes aujourd'hui. Hein. Finalement, on a eu des tutos pour fabriquer son gel, mais on ne sait pas dans quoi le mettre.
Mais c'est ça, on a la recette, mais on ne sait pas dans quoi on peut le mettre. On n'a pas forcément les contenants. Donc, on le sait, les pharmaciens sont désormais autorisés à produire eux-mêmes du gel pour répondre à la forte demande. Mais on a constaté qu'il y a énormément de pharmacies qui commencent à faire face à une pénurie, pas de gel, mais de flacons. Donc, pour pallier à ces ruptures de stock, il est désormais possible de rapporter son propre flacon pour pouvoir le faire remplir directement au sein de la pharmacie. C'est important de le savoir.
Vous restez avec nous, Christophe Legrand. Je voudrais qu'on accueille Alexandre Ricard, qui est également en ligne avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président directeur général de Pernod Ricard. Vous me dites on ne fabrique pas, mais on est en capacité aujourd'hui de donner de l'alcool au laboratoire. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs avec le laboratoire Cooper pour qu'il puisse fabriquer. Quels sont les stocks aujourd'hui dont vous disposez ?
Écoutez, tous les stocks dont nous disposions à court terme, nous avons décidé d'en faire cadeau effectivement au laboratoire Cooper. On parle de 70 000 litres d'alcool pur, qui représente l'équivalent d'un peu moins de 2 millions de doses pour les utilisateurs finaux.
Oui, ça signifie que vous parlez d'une première dotation, si j'ai bien compris, que vous pourriez de nouveau renouveler le don d'alcool.
Alors à ce stade, on a fait le maximum parce que on produit pas nous directement de l'alcool en France, contrairement à d'autres pays où c'est nous-mêmes qui distillons l'alcool, comme en Suède par exemple, en Écosse ou en Irlande ou même aux États-Unis. Donc ici, c'est vraiment on a fait l'état des lieux de ce que nous pouvions faire. Et donc, ça correspond à un peu moins de 2 millions de doses.
Vous avez déjà donné ces stocks au laboratoire Cooper qui va fabriquer effectivement ces 1,8 million de flacons individuels. Je crois que c'est des flacons de 50, c'est ça ?
Voilà, c'est des flacons de 50 millilitres et ils fournissent également les pharmacies en bidons de 5 litres. Hein. Donc, ils font les deux.
Oui, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a énormément de mobilisation. Elisabeth, il y a le géant mondial de l'industrie sucrière, Tereos, qui s'est engagé aussi sur la fabrication de gel.
Oui, et 5 usines partout en France sont concernées, dans le Loiret, dans l'Aisne, dans le Pas-de-Calais, dans la Marne aussi, dans la Somme. Ces usines ont le savoir-faire nécessaire à la fabrication d'alcool pharmaceutique. Elles ont des capacités importantes et ces capacités vont être mises au service de la fabrication de l'alcool pour les gels hydroalcooliques.
Je voudrais qu'on reprenne quelques minutes. Christophe Legrand, qui est toujours en ligne avec nous pour le groupe LVMH, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le milieu de l'entreprise aujourd'hui. Il y a une cohésion qui est en train de naître. On sent que les industriels, les TPE, les artisans aussi se serrent les coudes et essayent de donner ce qu'ils peuvent donner pour le bien commun.
Oui, tout à fait. Nous l'avons vu, nous, dès samedi, parce que nous avons commencé à travailler sur ce plan dès samedi avec le support de nos fournisseurs de flacons, justement, le support de nos partenaires pour les matières premières. Et enfin, la mise en place des équipes dès lundi matin pour découvrir des fabrications qu'elles ne connaissaient pas. Donc on voit bien que tout le monde se mobilise et tout le monde est très honoré et très fier en même temps de rendre service de cette manière au pays.
Vous n'avez pas eu de mal, effectivement, à trouver des volontaires, manifestement, pour venir fabriquer ?
Non, pas du tout. Nous avons des équipes extrêmement engagées, que ce soit à Beauvais, à Chartres ou à Saint-Jean-de-Bray, qui sont vraiment très engagées et très motivées pour honorer le plus possible ce que nous serons en capacité de produire.
Ouais, on voit que cette solidarité, elle s'exprime un petit peu partout sur le territoire. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Je voudrais qu'on continue à se parler et à parler à nos auditeurs, à répondre aussi à leurs interrogations parce qu'elles sont nombreuses. Roland Pérez, vous êtes toujours avec nous et on a Caro. Caro qui nous dit « Je suis fonctionnaire et mon employeur m'a demandé de rentrer chez moi, mais je suis sur une liste de réservistes pour aller travailler s'il y a des besoins d'aide à la population. Dans ce cas, ma paye sera différente si je suis appelée ou non. » Question posée sur le hashtag Radio Ouverte ce matin.
Non, alors les fonctionnaires, qu'ils soient d'ailleurs réservistes ou pas, bénéficient exactement aujourd'hui de la même législation, soit du chômage partiel s'ils sont mis en chômage partiel parce qu'ils ne travaillent pas pendant une période, soit de toute façon seront a priori payés par l'administration, et cette administration a priori, comme c'est l'État, elle n'aura pas à demander de remboursement, puisque l'État va assumer sans difficulté les rémunérations de ces fonctionnaires. Donc il n'y a pas de difficulté. S'ils restent en confinement ou s'ils sont réquisitionnés d'une manière ou d'une autre, ils seront payés.
Oui, effectivement, ils seront payés. Autre question de Caroline. Caroline qui nous dit toujours sur le hashtag Radio Ouverte. Bonjour, est-ce qu'on peut se déplacer pour du bénévolat dans un supermarché alimentaire coopératif, par exemple ?
Alors c'est une très très bonne initiative solidaire. Évidemment, on a vu que les Restos du Cœur d'ailleurs avaient demandé, essayer de réquisitionner tout autour de leur des régions où sont installés les Restos du Cœur des bénévoles. Il faut savoir que il faut pour cela que l'association qui va requérir ces bénévoles, qui va demander à ces bénévoles ou si ces bénévoles se manifestent auprès de ces associations, il y a une attestation de bénévolat qui peut être faite comme une attestation de l'employeur pour se déplacer, pour aller travailler dans le cas où le télétravail est impossible. De la même manière, il existe une attestation de bénévolat qui devra être remplie par l'association en question pour le temps justement de la mission, que tout soit bien précisé et évidemment que toutes les mesures de gestes barrières soient respectées, les temps de pause, le lavage des mains, le temps de la distance, enfin tout ce que l'on connaît et qu'on répète à longueur de journée, et bien tout cela doit être respecté par l'association, car il ne faudrait pas les mettre en danger, évidemment, ces bénévoles, si c'est possible, si des masques, mais évidemment, ce ne sait pas le personnel médical, mais s'ils peuvent aussi se procurer des masques, ce serait mieux.
Merci Roland pour vos lumières. Vous restez bien sûr avec nous jusqu'à 14h. Merci à Alexandre Ricard, président directeur général de Pernod Ricard, qui était en ligne avec nous, et à Christophe Legrand, directeur des opérations de Guerlain, en charge du plan de production et de distribution de gel hydroalcoolique pour les hôpitaux. On reste ensemble et vous allez voir qu'il y a d'autres initiatives locales à venir. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge, la France se bouge, la France se mobilise pour faire face à la crise sanitaire avec l'épidémie de coronavirus. Toujours avec nous, Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1, Elisabeth Assayag pour nous apporter toutes les réponses aux questions que nous nous posons, et bien sûr des invités qui prennent des initiatives comme Antoine Gravouille. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président de la distillerie The Bordeaux Distilling Company. Vous êtes au nord de Bordeaux. Et alors vous aussi, hein, finalement, comme Pernod Ricard, vous avez des stocks pour faire de l'alcool. Et vous vous êtes dit, plutôt que laisser ma production à l'arrêt, ben je vais faire don de ces réserves.
Oui, c'est exactement ça. Donc forcément à plus petite échelle, hein, puisqu'on est une entreprise de 3 salariés uniquement. Mais voilà, l'idée c'est que pour faire face à la pénurie de gel hydroalcoolique, nous à disposition on a à peu près 1000 litres d'éthanol pur. Notre production est à l'arrêt après la fermeture des CHR et des cavistes, donc forcément on les met à disposition gratuitement pour les pharmaciens et professionnels de santé.
Oui, vous avez mis un post sur Facebook, amis pharmaciens du 33, si vous êtes confrontés à la pénurie d'éthanol pour vos productions, nous avons 1000 litres d'alcool. On est venu vous appeler, on est venu frapper à votre
porte.
Alors
on nous a un petit peu appelé, mais pas suffisamment. C'est aussi pour ça qu'on cherche des relais de communication via la radio, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément sur Facebook et ou a le temps, notamment chez les professionnels de santé, de passer du temps sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on faut relayer le message. Tout est gratuit et on espère que ça va se débloquer dans les jours qui viennent.
Vous êtes en capacité d'amener par exemple ces litres d'alcool il faut passer le chercher directement à la distillerie?
Il faut plutôt passer le chercher, mais on est accessible en tramway, donc c'est plutôt simple. Revenir avec un contenant, parce qu'on va vite être en rupture de stock aussi. Mais bon, avec 1000 litres, on peut faire environ entre 20 et 30 000 gels, donc ça fait quand même énormément de possibilités pour une métropole comme Bordeaux. Donc on attend. En tout cas, s'il y a des pharmaciens qui sont dans le besoin, nous on est là, même le week-end, pas de souci.
Et je le précise, vous êtes situé à Bacalan, hein, au nord de Bordeaux. C'est important de le dire pour ceux qui seraient à l'écoute et qui voudraient venir justement chercher effectivement cet alcool pour pouvoir continuer à fabriquer des gels hydroalcooliques. Je voudrais que vous restiez avec nous et qu'on accueille ensemble Fabrice Lallemand, qui est en Franche-Comté. Bonjour Fabrice.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes dirigeant et fondateur, inventeur de la société Afuludine. On m'a signalé hier, je vais tout dire, on est transparent, surtout en ce moment. On m'a signalé hier que vous aviez, vous aussi, finalement décidé de participer à ce mouvement collectif sur LinkedIn. Du coup, je vous ai contacté, on vous a contacté avec l'équipe de La France Bouge pour vous demander d'être à l'antenne avec nous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Fabrice ?
Eh bien, nous, nous sommes une jeune start-up dans le domaine de la chimie. Et en fait, on fermait nos portes puisque nous, nos clients, initialement, en fait, sont plutôt les gros industriels. Et comme j'étais dans une municipalité, je tenais un bureau de vote dimanche et qu'on a eu beaucoup de mal à avoir de la solution hydroalcoolique, eh bien, je me suis mis à la disposition de la préfecture. Dès lundi matin, j'ai appelé la préfecture en leur disant qu'on était en capacité, puisqu'on travaille l'éthanol, eh bien, on pouvait fabriquer du gel hydroalcoolique pour un relais en région.
Et ça a commencé, ça y est, vous avez commencé la fabrication ?
Alors nous, on est un peu en mode start-up, hein, on est une jeune start-up, donc oui. J'ai une équipe qui est très jeune, donc tout le monde s'est mobilisé, a dit oui, on revient. Et en date d'aujourd'hui, on a relancé la production hier, et on a déjà fait 2 tonnes de produits qui sont déjà en cours d'acheminement sous les 72 heures réglementaires qu'on doit conserver le produit en quarantaine.
Oui, c'est vrai qu'on a énormément de bonne volonté. Hein. On s'en aperçoit finalement avec vos témoignages, que ce soit celui d'Antoine du côté de Bordeaux ou le vôtre, Fabrice, en Franche-Comté. Vous avez une visibilité ou vous travaillez sur au jour le jour finalement aujourd'hui?
Alors, non, toute l'équipe, en fait, on attend justement une citerne de 16 000 litres vendredi, parce qu'en fait, on doit livrer dès samedi matin le centre hospitalier de Nevers et très rapidement aussi celui de Belfort, parce qu'on sait qu'on est dans une zone aujourd'hui, une zone à risque très forte en région Franche-Comté. Et puis naturellement, on a des médecins qui se regroupent et des infirmières qui se regroupent pour qu'on puisse les alimenter en solution hydroalcoolique, aussi bien en gros bidon qu'en spray. On essaye de faire le maximum avec ce qu'on a en fait.
Antoine Gravouille à Bordeaux, c'était important finalement de participer à cet élan de solidarité?
Oui, tout à fait. Bon, comme je l'ai dit, notre activité est à l'arrêt. Et puis c'est bien aussi de montrer que notre secteur se mobilise, qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres distilleries en France qui font ça, à Marseille, à Paris. On est souvent un peu décrié par rapport aux problèmes sanitaires que la consommation d'alcool peut engendrer. Donc c'est aussi bien de montrer qu'on peut jouer sur l'autre tableau et mettre notre petite pierre à l'édifice, quoi. Je trouve que c'est très important.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est important de mettre sa pierre à l'édifice. Elisabeth, il y a IBO aussi, hein, IBO qui est à Montauban, qui a été créé en 2011, qui est spécialisée dans la cosmétique, qui elle aussi est en train de se mobiliser.
Elle est aussi en train de se bouger, effectivement, c'est à Montauban, ils sont en train de se bouger pour aussi réagir à cette crise, hein, du coronavirus. Tout est en ordre de marche pour pouvoir faire face à cette crise.
Oui, sur la fabrication effectivement de leur gel hydroalcoolique.
Leur gel à eux, leur gel sur mesure.
Alors si mes chiffres sont bons, ils sont débordés eux aussi et ça fait une semaine qu'ils ont lancé la production. Il y a 2000 produits par jour et ils devraient passer rapidement à 4000 par jour. Ils auraient dû être avec nous, mais ils sont tellement débordés que ça n'est pas possible. Mais en tout cas, on tenait à leur donner un coup de chapeau aussi. Merci Antoine Gravouille et à Fabrice Lallemand en Franche-Comté et à Bordeaux. On va continuer à prendre des auditeurs et à prendre vos questions pour pouvoir répondre. C'est Roland Pérez qui est avec nous. On a Monique qui est en ligne et qui a composé le 39-21. Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous écoute.
Ah, écoutez, je suis enchantée de vous avoir. Écoutez, je vais poser rapidement ma question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui veulent vous en poser. En fait, je vous appelle pour mon fils qui habite dans le Var. Il avait un déménagement prévu pour fin mars. Il les a avertis que lui, mon fils est assigné à résidence parce qu'il est immunodéprimé. Donc, il ne peut voir personne. Mm-hmm. Il a prévenu la société de déménagement pour repousser le déménagement, vu qu'il a déjà versé des arts. La société refuse de déplacer le déménagement et sa société immobilière refuse de se déplacer pour faire l'état des lieux. Donc, s'il n'y a pas d'état des lieux, il n'est pas locataire. Donc, en fait, voilà.
Oui, vous vouliez savoir comment on fait. Roland, comment est-ce que vous avez la réponse pour Monique?
Oui, j'ai la réponse pour votre fils. De toute façon, là, nous sommes dans un cas de force majeure. Le cas de force majeure, qui a d'ailleurs été prévu, cette situation du déménagement a été prévue hein, par le gouvernement. Ils l'ont envisagé. Ils disent qu'a priori, le confinement doit faire repousser tout déménagement, sauf si vraiment il y a une situation impérieuse, c'est-à-dire un double loyer à payer, le préavis effectivement qui a été donné, et on arrive à une fin de bail, et la possibilité véritablement d'organiser son déménagement, ce qui implique un état des lieux, comme vous l'avez dit, et implique également également, oui, de trouver moins de 5 personnes pour pouvoir faire ce déménagement. Autant de conditions qui font que votre fils peut parfaitement obtenir un report, d'autant que, je le précise pour tous, la trêve hivernale pour les expulsions, si tant est qu'il y avait une procédure, ce qui me semble tout à fait impossible, mais s'il y avait une procédure, la trêve hivernale aujourd'hui fait que aucune expulsion ne peut intervenir avant le 31 mai, et si la situation perdure, elle sera d'autant plus prolongée. Donc, a priori, pas de difficulté pour votre fils, il doit invoquer le cas de force majeure et rester comme il le peut dans son appartement.
Oui, d'autant plus que sur le logement précipité dans lequel il est, il peut y rester jusqu'au mois d'août.
Bon. Bah, écoutez, j'espère qu'il va pouvoir avoir gain de cause auprès de la personne qui lui loue effectivement ce logement. Merci beaucoup, Monique, d'avoir composé le 39-21. Je voudrais qu'on signale quand même que Céline Montero-Fichelson, fondatrice de Wash, qui fait des solutions durables et lavables, elle aussi est en train de fabriquer des masques. Elle aurait dû être en ligne avec nous. Toutes mes excuses, parce qu'évidemment, vous êtes très nombreux. Merci à Elisabeth Assayag qui était avec nous comme chaque jour.
Merci à vous et surtout, bravo à demain. Toutes nos entreprises françaises qui se bougent.
Et à la nôtre d'entreprises qui se mobilisent chaque jour avec les gens du MMA, la technique, bref, tout le personnel est sur le pont. On embrasse tout le monde de loin. Merci à Roland Pérez qui sera de nouveau, et oui, le pauvre, avec nous demain entre 13h et 14h.